Bravo Original, soyez les bienvenus avec Leïla Kadouboudadi.
Bonjour à tous.
Alison Wheeler.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo à toi Daniel.
Daniel Ragou. Guy Passureau sera là tout à l'heure.
Salut.
Et notre invité Riyad Satouche. Riyad avec les cahiers d'Esther. Bonjour Riyad.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro nous parler de l'histoire de ces 12 ans et même du passage de 11 à 12 ans. On va repréciser qui est Esther dans votre univers de la bande dessinée. C'est vraiment la copine d'un pote?
Oui, enfin c'est la fille.
La fille d'un copain.
Ouais. Oui, c'est la fille d'un copain.
La fille d'un copain qui, depuis 4 volumes maintenant...
Ouais, depuis qu'elle a 9 ans, en fait, elle me raconte des histoires sur son quotidien de petite fille, enfin de moins en moins petite maintenant parce qu'elle est au collège. Mais elle me parle voilà, de comment elle voit le monde, de comment elle envisage son futur, de ce qu'elle pense de la politique, ce qu'elle pense des
Alors,
garçons.
Très politique justement, puisque là c'est pratiquement sur l'année écoulée, on a le sentiment d'être et dans la campagne électorale.
On la revit, ouais.
Voilà, on la revit avec même les sondages au premier tour et qu'est-ce qui va se passer au deuxième tour.
Des candidats qu'on avait oubliés d'ailleurs.
Est-ce qu'on risque de le père qui décide de fuir en Belgique si jamais le Front National est élu à l'Élysée. Enfin, on se rebaigne dans des périodes qu'on avait un peu oubliées. Moi, j'ai un peu zappé tous ces trucs-là. Je me dis, allez, c'est fini. Maintenant, c'est fini. On efface tout. Eh ben non, c'est là à nouveau. Jusqu'à, elle ne sait même pas qui est l'actuel président de la République au moment du premier tour.
Tout à fait.
Vous en dessinez même pas la tête d'ailleurs. Vous dites.
Voilà, c'est vrai que je lui ai demandé de me parler de ce qu'elle avait senti de la présidentielle. Parce que son père, en effet, voulait partir en Belgique.
Elle
avait très très peur de quitter ses copines et son collège. C'était surtout ça. Donc elle s'est mise à s'intéresser beaucoup à la politique. Et donc, elle a une manière de juger les candidats qui est uniquement sur le physique. C'est-à-dire, si quelqu'un est beau, il peut être président.
Mais c'était déjà le cas à l'époque de le Canuet, ça. Toute sa campagne était faite sur son sourire.
Le Kennedy français.
Voilà.
Et donc, elle n'avait jamais vu de photo d'Emmanuel Macron, parce que son père ne la laisse pas regarder la télévision et les informations. Mais une fois qu'il a été élu et qu'elle a vu sa photo, sa tête, elle a dit, mais c'était évident que c'était lui qui serait président, parce qu'il est, c'est le plus
si
beau des plus beaux.
Si vous pouvez éteindre vos portables, ça m'arrange pendant le voyage. De toute façon, le pilote va refuser d'atterrir, hein, si les portables sont allumés. Il y a... Ou alors répondez, si vous voulez pas.
Moi, je veux bien qu'on réponde.
Ça serait drôle. Et donc, il y a du mélanchonisme aussi à la maison. C'est le père qui est mélanchoniste, c'est la grand-mère qui est le péniste, c'est ça?
Tout à fait.
Très compliqué, les dîners.
C'est tellement mignon.
C'était assez compliqué.
Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'elle relie... Enfin non, parce que d'ailleurs, c'est évoqué dans la bande dessinée. Elle se met à relire les cahiers d'Esther en disant, moi, je ne suis pas ces épisodes régulièrement.
C'est une mise en abîme. Hein.
Exactement.
Non, c'est vrai qu'en fait,
en réalité, elle vous lit.
Non, elle s'y intéresse pas toutes les semaines, pas du tout. Non. Et c'est aussi ce qui m'a plu chez cette petite fille, c'est qu'elle s'en fiche complètement. Elle est vraiment comme un. C'est comme si j'étais sur la banquise et qu'avec une caméra et qu'il y a un pingouin qui passe devant, il regarde pas la caméra, il fait. Il passe comme ça. Elle a aucun intérêt.
Ça fait longtemps que j'ai pas eu de pingouin.
Ouais, ça. Elle n'inventera jamais d'histoire non plus. C'est ça qui me plaît, c'est l'authenticité de ce qu'elle va me raconter.
Mais elle n'en parle pas à l'école, parce que quand même, elle pourrait tirer une petite gloire de se dire que...
Elle est dans l'ops.
Non, mais c'est vrai que je lui ai dit qu'il valait mieux pas le dire, mais si elle a envie d'en parler à ses copines. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, en fait. Je ne sais pas si...
Je ne sais pas comment elle gère.
Non, pas du tout. Bon, en tout cas, elle ne le gère bien, parce qu'elle elle a réussi à passer en sixième. Donc, elle n'est pas en échec scolaire à cause de...
ne dévoilez pas tout, parce que tout le monde n'a pas lu le nouvel ops, et certains vont découvrir des choses. Elle est co-scénariste, donc vous la rémunérez. Ok, alors, on va passer à une deuxième question, qui est de savoir, est-ce qu'il y a des sujets tabous, des sujets interdits, et qui lance ce sujet? Est-ce que c'est vous qui, lors de vos discussions, vous lui dites, est-ce que t'as eu gym aujourd'hui, ou est-ce que t'as vu la politique, ou qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Parce que les clips aussi sont analysés, le placement de produits de Black M est analysé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, le jus de fruits est analysé.
Non, c'est vrai que je la lance assez rarement sur les sujets, sauf au moment de la présidentielle où là, je voulais quand même avoir son avis, voir ce qu'elle avait ressenti. Mais en général, c'est toujours elle qui me parle de choses. Et justement, j'aime beaucoup la distance pudique en fait que j'ai avec ces histoires, parce que quand elle me parle de sa vie, entre guillemets, sentimentale, de ses copains, ses petits amis et tout. C'est elle qui m'en parle. Je lui demande jamais, alors, t'as un mec en ce moment? Jamais, jamais.
Justement, non, elle détesterait, en plus.
Je sais pas.
D'avoir comme ça la question. Enfin,
oui, voilà, ouais.
Les filles à 12 ans, vous lui dites, t'as un fiancé, elle déteste. Par contre, si elle a envie de parler, ouais, il faut l'écouter.
Mais des fois, c'est vrai que voilà, elle me dit, par exemple, eh ben là, j'ai 3 copains en même temps. Ah bon, mais tu crois que tu m'avais dit que tu voulais te marier, avoir 4 enfants, etc. Je dis, bah ouais, mais les 3, ils savent pas qu'ils existent. Hein. Je peux marier avec les 3 sans leur dire à chacun.
Vous le dites d'ailleurs, quelle est pour la polyandrie.
La polyandrie.
La polyandrie. Voilà, c'est ça. Parce que moi, j'ai un truc que je ne peux
c'est
pas imaginer.
Moderne.
Ça vient d'André Manoukian. Plusieurs partenaires.
La gratuité.
Et puis, elle est, puisqu'on est entre ses 11 et 12 ans, votre recueil commence, elle a 11 ans, elle fête son anniversaire, et là, il y a toute une analyse, presque au scan de son corps, où elle analyse ses petits points blancs qu'elle a sur le coin du nez, où elle analyse ses jambes, ses pieds, les jambes qui sont trop maigres par rapport à la taille des pieds, enfin, c'est extrêmement détaillé, et là, vous cherchez vraiment à garder son prisme à elle. C'est elle qui trouve qu'elle a les jambes trop maigres.
Ah oui, bien sûr, parce qu'en fait, elle a eu un examen médical à l'école, où je pense que tous les enfants, ils les examinent pour voir s'ils sont en bonne santé. Et donc ça l'a vachement marqué parce que elle a dû penser, enfin elle a cru à un moment qu'elle pouvait avoir un problème. Si tu vois, on regarde et donc elle m'a dit, moi j'ai aucun problème, juste les pieds un peu grands, j'ai des boutons, mais
j'aime
pas
bien
trop,
mes bras.
Je suis encore populaire, j'aime bien mes bras, ils sont assez élégants. Enfin, elle me parle de tout.
Et c'est fou d'imaginer, en fait, en lisant les cahiers d'Esther, on grandit avec cette petite fille, c'est ça qui est très touchant. On la voit donc très très naïve à 9 ans, là c'est encore différent à 12 ans. Mais surtout de se dire tout ce qui passe par la tête d'une petite de 12 ans. Moi je suis complètement effarée, je me dis j'y connais rien, j'y comprends rien en fait. Parce que même c'est ce rapport au corps qui est quand même pour moi un rapport d'adulte dans l'observation, dans le détail.
Le rapport au regard des autres.
C'est ça, et je trouve ça complètement fascinant. C'est une vraie plongée dans un univers où le temps de l'album, moi j'ai 12 ans, alors j'ai adoré les pages politiques parce que forcément il y a le point de vue de cette petite fille sur qui est de droite et qui est de gauche. Et on se rend compte quand même pour la présidentielle qu'ils sont tous de droite pour elle. Hein.
T'as appris des trucs en lisant ça ou pas ?
Mais j'ai appris plein de choses. Mais j'ai appris des choses sur ce que je trouve rafraîchissant, c'est ça, c'est ce regard et c'est à mon avis ce qui vous touche, vous aussi, discuter avec elle, ça vous change de parler avec les adultes en fait.
Non mais bien sûr, c'est vrai que montrer le monde à hauteur d'enfant, ou en tout cas avec ses références, c'est toujours dédramatisant.
Enfin, ouais.
Je sais que par exemple, il y a une page où quand Donald Trump a été élu, l'ensemble du pays était traumatisé. Enfin, moi j'étais super, et donc je lui ai envoyé, je lui ai dit, ah, t'as vu et tout. Puis il m'a dit, non, faut pas s'inquiéter, parce que Donald Trump, il est très 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 moche, très gros, mais sa femme, c'est un mannequin. Donc c'est forcément elle qui commande, parce qu'elle est beaucoup plus belle que lui.
C'est ce qu'il y a, c'est ça. Il y a toute une histoire là-dessus où c'est finalement elle qui rassure son papa. D'ailleurs, son papa, c'est un mélange de vous et lui. Bande dessinée.
Non, je me suis inspiré quand même d'une vraie personne.
Il est prof de G.
Je suis pas prof de G.
Non,
j'entends.
Mais je parle dans sa manière, dans le rapport justement, de la manière de rassurer, de parler des portables aussi, des smartphones. Elle a un truc d'ailleurs. Il faut absolument pas que les enfants de 12 ans lisent votre bande dessinée parce que c'est un truc qui va révolutionner le marché du portable pour que les parents en achètent un neuf.
Mais c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que la famille d'Esther, c'est une famille très rassurante. Elle a pas de problèmes familiaux, ils ont pas de problèmes.
Ouais, elle a de la chance.
Donc en fait, il y a un côté petit cocon, et c'était aussi ça qui m'intéressait, de voir quelles peuvent être les histoires d'une jeune fille sans histoire, comment elle peut voir.
Qui va quand même dans un bahut de riche parce que
ses parents ont triché.
Voilà. Hein,
la carte scolaire.
Avec la carte scolaire, bien sûr.
Mais ce qui serait intéressant, c'est dans...
Les garçons étaient trop agressifs dans l'autre quartier, et c'est la protégée, la privilégiée par rapport à ses frères.
Ah, bien sûr, ouais, c'est ça, c'est assez étonnant, parce que son père, donc il était mélanchoniste, mais il a tout fait pour que sa fille aille quand même dans un collège super prestigieux du centre de Paris, parce qu'il avait peur qu'elle se fasse agresser par les parents de son fils. Lui, il est dans ce collège à côté, il rêve d'être Nekfeu. Enfin,
Nekfeu lui aussi était dans le lieu d'origine.
J'ai remarqué, c'est vrai.
Oui, les BD de Riyad, elles sont très très insérées dans le présent. Mais dans un siècle, c'est ma voix qui vous fait peur.
Elle est trop sexy.
Non, c'est ton physique, mais on est à la radio, donc ça a bien intérêt d'en parler.
Qu'est-ce qu'on en fait à la radio ?
Qu'est-ce qu'on en fait ?
J'ai répondu. Oui, dans un siècle, quand on relira, les générations futures liront ces albums, ils auront un regard très intéressant sur notre époque. C'est ça qui est passionnant chez Riyad. Ah oui. Il est à la fois très ancré dans le présent et en même temps, il y a une distance à la fois esthétique, parce que on le dit pas, mais c'est un formidable dessinateur. Son trait a l'air simple.
On va en parler ça. Du dessin, parce que il est loin d'être simple, le dessin. Et puis il est très fourni, très dense.
Voilà. Et il n'y a pas une case qui soit de trop, qui soit là pour combler un vide. Tout est dans le
rythme. J'irai plus loin, mais parlons de après avoir parlé du fond, parlons de la forme. C'est d'une densité. En termes de dessin, d'écriture. Non, mais c'est très très dense. Ouais. C'est-à-dire que moi j'étais fou, dingue de, et toujours d'ailleurs, de Marcel Gottlieb, parce qu'il y avait la coccinelle dans la case qui avait elle-même sa propre vie, son dialogue, exactement. Il y avait plusieurs lectures, des profondeurs de champ.
Lecture, bien sûr,
exactement. Ouais. Et là, il y a une scène, il y a les didascalies, il y a la flèche qui vient expliquer, il y a la traduction pour ceux qui n'ont pas compris le verlan. Voilà, c'est ça. Tous ces détails, et c'est quand même, si je peux me permettre, écrit relativement serré et dense. Et d'ailleurs, je voulais savoir, est-ce que vous le faites sur un ordinateur, en grossissant l'image pour qu'après elle soit réduite et qu'elle passe à 4, je sais pas, enfin, quel est le format, parce que c'est...
Non,
vous avez une vue de lynx et vous faites tout à l'encre de Chine.
Non, mais je le fais de manière traditionnelle avec...
Il y a beaucoup de détails.
Avec des crayons, il y a beaucoup de... En fait, en tant que lecteur, j'aime bien quand il y a beaucoup de choses à lire. Bon, c'est vrai que, notamment en bande dessinée.
C'est le cas. Voilà. À faire ça, ouais.
Et c'est vrai que je me rappelle, ma première lectrice, c'est ma grand-mère, et en fait, elle aimait pas du tout la bande dessinée parce qu'elle trouvait que c'était toujours trop léger à lire et qu'il y avait, ça se lisait beaucoup trop vite et que c'était.
Votre grand-mère a l'intérêt à avoir une bonne vue aussi pour tout lire.
Ah ouais, faut prendre des lunettes, Nagui.
Non, ça va. Je lis bien. Je me dis que si c'est ma grand-mère qui devait le lire, elle aurait.
Non, mais justement, si. Je fais attention à ce que ce soit très 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 simple à lire.
Le manque de respect.
Mais non, mais
non,
pas
elle
du tout.
Plus, elle c'est, plus. C'est non, mais en c'est revanche, factuel. C'est vrai que par rapport à un album traditionnel, la lecture en fait d'Esther prend du temps. Et c'est ça aussi qui est agréable, c'est-à-dire que c'est pas simplement une soixantaine de planches qui sont ici agglomérées dans un album. C'est vraiment une histoire par planche. C'est pas une lecture qu'on fait comme ça à la va-vite en 20 minutes. Donc c'est aussi, moi, c'est ce que je trouve intéressant aussi dans cette série que vous êtes en train de constituer, Riyad Satouf, c'est que on rentre dans une véritable histoire et puis on entend toujours la voix d'Esther. Et moi, j'aimerais bien l'entendre en vrai, la voix d'Esther. En fait, j'essaie d'inventer une voix dans ma tête.
Il y a une planche, justement, qui évoque ça.
Sa voix ?
Ah bon ? Ben non, le fait que ça devienne un film.
Ah, mais oui, ben ça va devenir avant d'être un film, ça va devenir une série en dessin animé. Donc, on a cherché la voix d'une vraie petite fille.
Non, mais il faut prendre des acteurs américains.
Elle est à fond.
Les enfants, parfois, ils imaginent la voix. Je me souviens d'un petit garçon qui m'avait dit « Elle est bien la voix du Capitaine Haddock ». En lisant un album, c'est formidable.
Sans qu'il y ait eu aucun dessin animé, aucun film. Oui, mais alors si je peux me permettre, pour avoir vécu justement...
Avec le Capitaine Haddock.
Et être de ces âges où j'ai lu Tintin, j'ai lu Astérix, et puis des années après, il y a eu des films ou des dessins animés, j'ai toujours été déçu parce que je m'étais fait ma voix dans ma tête des différents personnages. Donc il y a...
C'est compliqué.
Vous posez la question ?
Ah oui, bien sûr, parce que de toute manière, la petite fille qui fait la voix d'Esther, elle a sa voix à elle. Et
en sa voix change en plus.
Et pourquoi ne pas demander à Esther de faire sa propre voix ?
Parce que maintenant elle a 12 ans et qu'elle peut pas. Moi je veux pas qu'elle se double à 9 ans.
Bah oui.
Enfin, je veux que ça change.
Ça va, elle a pas mué.
Si, c'est plus les mêmes façons de parler. J'ai fait tous les essais avec des filles de 9, 10, 11, 12. 4, et voilà,
il y a une
tessiture d'enfant qu'elle a plu maintenant.
Alors ce qui est formidable, pour en revenir à ce que disait Leïla tout à l'heure sur le fond, oui, il y a, et Albert aussi, sur le point de vue de la société, oui, il y a le point de vue de la fille, on s'attache à elle, à sa découverte du monde, mais ça nous renvoie aussi une image de nous dans nos comportements, dans nos habitudes, dans la société dans laquelle on vit, la consommation de clips, de télé, de smartphone, enfin c'est l'ère du temps qui est présent.
La vraie Esther, elle a une mythologie personnelle en fait, c'est-à-dire
elle a des dieux, elle invente des déesses,
des chanteurs importants pour elle a des films importants, des livres importants, elle a un univers mental très important. Par exemple, quand vous me disiez si elle lisait les pages, en fait ça lui plaît, mais elle préfère les histoires d'horreur, par exemple les vampires. Donc elle a commencé à écrire des livres de vampires. Justement, j'ai illustré une partie de son roman qu'elle a commencé à écrire.
Elle veut faire plutôt un roman d'horreur. Elle se met à l'écriture, mais dans l'horreur.
Ouais, dans l'horreur.
Et en même temps, elle a une formidable idée en devenant vampire. c'est d'être immortel et de
filer. Ça lui fait peur parce qu'elle sait pas quoi faire avec. Voilà, elle a peur. Quand on est vampire, on est immortel. Donc, est-ce qu'elle va assister à la mort de son père de vieillesse?
Bah non, puisqu'elle va le mordre. Bref, vous avez compris, on a été touchés, émus, et c'est extrêmement
c'est
intelligent.
Drôle,
voilà,
c'est
les
drôle.
Cahiers d'Esther, l'histoire de mes 12 ans, c'est chez Alary Édition. J'espère, Père Albert, que vous avez bien compris pourquoi Riyad Sattouf était notre invité.
Alors, mon cher Nangui, il manque à votre question un adverbe. J'ai essayé, hein, vous entendez une voix bizarre, le grog au vin de messe et au viandox, mais ça marche pas. Donc, je file à Lourdes tout à l'heure.
Donc, il y a plus que ça pour vous.
Oui. Il manque à votre question un adverbe. Il aurait fallu me demander pourquoi, malheureusement, nous recevons Riyad Sattouf. Mais rassurez-vous, mon cher Nangui, pour une fois, je ne vous reprocherai point de vous être montré réticent quand il a fallu désigner notre invité, en l'occurrence, Riyad Sattouf. Bonjour, Riyad. J'étais là dans le couloir de France Inter, tapis dans l'ombre, quand je vous ai vu foncer sur GNB, notre rédac chef, qui sortait des toilettes qui lui servent de salle de bain. Parce que
c'est là. Je comprends mieux.
Oui, pratique de 13 sommaires ablutions après avoir dormi sur la moquette tout habillé du bureau de la bande originale. Et vous avez dit, invite un auteur de BD, avez-vous lancé à GNB. Ça me reposera tous ces cabots du showbiz qui n'arrêtent pas de défiler ici. Sur ce, GNB, aussi terrorisé que mal rasé, mais toujours aussi professionnel que réactif, brandit des albums qu'il avait emportés avec lui aux toilettes. Et de proposer le splendide album de Bilal, Bug, apparaître chez Casterman. Vous pourriez l'offrir à Leïla. Tiens, Leïla.
Oh, merci.
Et de vous tendre le désopilant Edical et Grand Cru Classé chez Flux Glacial. Vous pourriez l'offrir à Daniel Morin. Tiens, oh, Daniel. Merci. Et de brandir le très puissant scalp d'Hugues Micol chez Futuropolis. Ça, c'est de la BD qui tue. Maître, vous pourriez l'offrir à Alison Wheeler,
oui,
qui va adorer.
C'est
ça,
vrai?
C'est très très bien. Hugues Micol, formidable à Futuropolis. Et puis, voici les extraordinaires variations de Blutch chez Dargaud.
Ah, c'est beau,
absolument
ça.
Génial.
Tu vas tenir jusqu'à la fin.
Oui, je vais crever à la fin. Vous pourriez vous l'offrir à vous-même, car c'est magnifique. Splendide comme vous, maître. Tenez.
C'est pour vous.
Ah oui, c'est pour vous.
J'avais pas compris le maître. Oui,
maître, c'est GNB qui parle. Hein. On peut croire que c'est moi, mais avec cette voix désastreuse, il y a une équivoque. Pour toute réponse à ces flatteries, c'est un grand coup sur la tête que s'est reçu GNB, un coup asséné avec les cahiers d'Esther. Fais venir Riyad Sattouf. Tout ce que tu me proposes, c'est de la BD pour un télo. Je m'en balèque, comme dit Esther. D'ailleurs,
c'est vrai,
elle parle
ouais.
comme moi, et donc je comprends tout. Voilà pourquoi, Nangui, malheureusement, nous recevons Riyad Sattouf. Je dis malheureusement. Car les planches des cahiers d'Esther m'énervent autant qu'elles me blessent. Certes, c'est toute jeune fille est en recherche. Mais pourquoi, dès les premières pages, la laisser dire « je crois pas en Dieu » et se lancer dans une apologie sacrilège du polythéisme, du vampirisme et des reptiliens? Tout me prouve, Riyad, que tu es possédé par Esther. Aussi vais-je procéder sur toi à un exorcisme flash. Terrorgamus immundus spiritus esterus bedes diabolicus. Va des rétro, exéat, Riyadis, satufi corporum.
Ta mère, les DBD en enfer.
Je te conjure, Esther, sors du corps de Riyad, tu ne veux pas. Alors entre dans le mien. Oui, viens, fais comme chez toi.
Ça va pas, non?
Non, non, pas comme ça. Comme ça. Oui, vas-y, démon. Démonte-moi. Come into me. Dès que je vais crever, là. Opère-moi. Prends-moi. Venge-toi.
Non,
ça marche, Nagui.
Oui.
Et moi, je vais offrir, avant de crever, je vais offrir à Riyad les cœurs simples. Chez Casterman.
Je l'ai lu,
mais il est dedans.
Parce qu'il est notamment dedans et parce que je l'aime beaucoup.
Oh.
Voilà.
Merci Albert Angou. Merci de l'effort, Père Albert.
La bande originale.
Nous reparlerons tout à l'heure de ces cœurs simples signés Albert Agoul qui devraient normalement, si tout va bien,
ressusciter
dans le courant de l'émission chez Casterman. Mais encourageons tous nos auditeurs et auditrices à lire les cahiers d'Esther. Il faut dire aussi que c'est aussi, je pense, intéressant et passionnant que l'on soit une adolescente d'une dizaine d'années qu'un adulte et que l'on ait ou pas des enfants. Parce que, encore une fois, il y a une vision de la société dans laquelle on vit et ça relève presque du reportage de se dire donc il n'y a que ça d'essentiel ou d'important ou qui joue le regard des autres parce que cette génération là elle va très rapidement être dans la vie professionnelle et grandir très rapidement parce que le temps passe très vite, on s'en rend compte avec les cahiers d'Esther, la vitesse à laquelle elle grandit, et la perception qu'elle a de ce que nous on consomme. On peut écouter Et elle n'a pas la même perception, elle, quand elle entend aussi, par exemple, Ed Sheeran.
Ah, j'adore.
La page est très drôle sur Ed Sheeran.
Super drôle.
Elle est vraiment
super
très drôle,
drôle
sur la couleur des cheveux, sur les roues.
Vous avez été super
gentil
dans la manière dont vous l'avez dessiné quand même.
Oui, mais alors je le trouve assez émouvant comme mec.
Non, mais j'adore, mais c'est un mec adorable.
Il a un physique assez difficile.
Mais il est plus rond.
Oui, oui.
Là, vous l'avez fait.
Dans son, clip, il est quand même montré un petit peu musclé, non?
Non, non, non. Vous appelez ça du muscle? Non, non. Non, non. Il y a aussi des feux. Kenji aussi.
Ça, c'est bon, ça.
Non, mais c'est là où on voit que c'est vraiment un baromètre de ce qui se passe dans la tête, dans les oreilles des ados. De la même manière aussi, bah, la voix n'est présente. Mais non, mais c'est
un poster aussi.
Oui, parce que je vous assure, je connais quelqu'un qui fait une émission, un jeu où les gens viennent chanter. Et ce qui est frappant, c'est que ce que l'on a connu, elle cartonne. Ce que l'on a connu, en tout cas, il y a le boulard. Ce que l'on a connu il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, ou 15-20 ans, c'était très segmentant. C'est-à-dire qu'il y avait des générations qui écoutaient un genre de musique. Et maintenant, c'est fini, c'est ce qu'on voit avec Esther. Parce que il y a le flux diffusé sur Internet, les MP3, les smartphones, ils accèdent à tout, ouais. De toute génération, sans même plus trop savoir qui chante quoi, ouais. D'ailleurs.
Mais à quelle époque, surtout.
Ils connaissent ses chansons, ils connaissent ses paroles par cœur, et ils vont voir des détails dans les clips que moi, le clip de Black M, je l'avais vu, mais 25 fois. J'avais jamais fait gaffe au jus d'orange.
C'est vrai. Mais ça, c'est parce que c'est le père qui l'a fait
produit. C'est presque subliminal.
Ouais. Mais c'est toujours, c'est vrai que, comme souvent, on prend un peu à la légère les goûts des jeunes, par exemple. Moi, je sais que, par exemple, Ed Sheeran ou même Black M, j'en ai entendu parler, mais quand Esther m'en a parlé, je suis rentré dedans, j'ai lu leurs paroles, j'ai regardé les vidéos, et on voit que c'est aussi porteur de valeurs, c'est porteur de trucs commerciaux aussi. Enfin, il y a tout un univers qu'on fait passer aux jeunes.
Non, mais je pense que les parents des adolescents qui écoutaient She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah dans les années 60 devaient dire c'est quoi cette musique de sauvage, ouais. C'est quoi, c'est obladi oblada les paroles, vous savez.
Non, mais c'est vrai, mais c'est ça. Et c'est toujours pareil. Intéressant de retrouver les codes de chaque génération. Voilà. C'est vrai que personnellement, je m'étais plus intéressé à la musique de jeunes. Ouais. Et c'est une manière aussi de rentrer dans cet univers qui préserve, qui est un peu secret et qui est de redevenir un petit peu jeune. Enfin, je sais que...
C'est bien. Ça s'appelle Les Cahiers d'Esther. C'est signé Riyad Satouf. C'est publié chez Alary Édition. Et vos oreilles ont sifflé, il est là, quand on vous a dit que Riyad revenait dans cette émission.
Oui, et quand je pense à vous, Riyad Satouf, j'entends ça. Soyez attentifs.
In 2011, I had to help a part of my family who was still living in Homs. To come in France, and I had a lot of difficulties to obtain authorization in France for them. So I wanted to tell by comics what was happening in the French administration, you know. But to tell this story, I had to tell it from the beginning, so I started to this project.
En tout cas, on comprend.
Riyad Satouf.
Quand il n'y a pas d'accent, ça passe tout seul.
Interviewé à la BBC. BBC Riyad Satouf.
Trop chic.
Avec Satouf de T2F, hein, tant qu'à faire, c'est la totale.
Satouf.
Voilà, Satouf. Et bravo.
Il y a toujours deux T, mais il n'y a pas deux F.
Oui, c'est ça, mais sur la BBC, il y avait...
Pourquoi ils ont ajouté un F?
Mistake, voilà.
Comme French.
Est-ce que vous attendiez un succès tel pour l'arabe du futur au point que ça s'exporte autant à l'étranger? C'est complètement fou, en fait, hein, l'arabe du futur.
Que l'arabe s'exporte déjà.
Et déjà.
Non, on ne peut pas s'attendre à quelque chose comme ça. Alors, moi, je me disais que l'histoire de l'arabe du futur, mais qui. Bah, disons que l'information qu'il va y avoir dans le prochain volume, dans le quatrième volume. Je me disais que ça interpellerait peut-être les gens, peut-être pas de cette, mais je m'attendais pas à ce que ça trouve un écho dès les premiers volumes comme ça. Non, c'est vrai que c'est toujours étonnant. Et là, j'ai fait une tournée de librairie dans les pays scandinaves, et c'est rigolo de voir que les lecteurs le comprennent de la même manière que les lecteurs français, alors que rien dans leur vie ne semble les relier à cette histoire-là.
Cette orientalité.
Oui, c'est étrange.
Et est-ce que vous pensez que les Cahiers d'Esther pourraient aussi bien voyager que l'arabe du futur?
Mais ça m'étonne peut-être plus que l'arabe du futur, c'est que les Cahiers d'Esther a déjà été traduite dans une dizaine de pays.
C'est bizarre, parce que ça a l'air très franco-français.
Et c'est très référencé.
En Corée, Corée du Sud. Et ben,
oui, c'est pas peine de préciser.
Oui, c'est pas la Corée du Nord.
Pays de bande dessinée aussi.
C'est étrange. Ouais, je trouve ça étrange. Mais peut-être que c'est comme le fromage ou le camembert. Il y a un goût français.
Mais ils changent les références à Black M.
Pas du tout,
pas du tout.
Ils traduisent Black M. Ils mettent une petite étoile en bas en expliquant qui est le chanteur et qu'est-ce qu'il fait.
Ouais, ce que j'allais dire, c'est parce que les références culturelles sont quand même pas les mêmes, ne serait-ce que dans les quartiers aussi. La dangerosité de tel ou tel lycée, enfin, c'est une.
Oui, mais regardez à l'inverse le succès du manga auprès d'un public français, adolescent, succès considérable. D'une société, d'une civilisation qui nous est relativement étrangère.
Ouais, mais c'est plus.
Et là, c'est dans l'autre sens.
Ouais, c'est plus historique que.
Pas seulement.
Que factuel, temporel. Là, c'est vraiment l'air du temps.
Pas seulement, parce que le manga, il aborde aussi, celui qui a du succès, les problèmes, justement, des adolescents. Et ce qui est formidable chez Riyad, chez Zep aussi, c'est que sont des auteurs de BD qui traitent des problèmes très concrets de l'adolescence en les transfigurant avec le
mieux
et avec le dessin.
Et c'est vrai que les cahiers d'Esther sont très référencés, donc je vois très bien le genre de manga dont tu parles, Albert. Ces mangas qui abordent la question de l'identité sexuelle, par exemple, les amours un peu compliqués. Mais là, c'est vrai que dans les références d'Esther, c'est... il faut vraiment vivre ici pour les comprendre vraiment à première vue, parce que de toute façon, vous cherchez pas à adapter, de toute façon, vous pensez pas à ça.
Ouais. Non, jamais. Mais c'est vrai que les spécificités d'un lieu. Ouais. Enfin, moi, par exemple, en tant que lecteur, j'aime beaucoup quand vous parlez des mangas, quand on était jeune, on lisait en effet des mangas qui se passaient dans des lycées japonais où ils ont tous des uniformes.
Des uniformes comme
et en même temps, il y a des spécificités.
Le collège foufoufou.
On n'a rien à voir avec ça en France, mais on est content de voir qu'ils vivent comme ça.
Je te dis, ça pousse au tourisme parce qu'il y a beaucoup de fans de mangas qui rêvent de partir, de voyager au Japon et d'aller voir la culture. Peut-être que ça sera
dans ce sens-là.
Beaucoup d'Asiatiques vont vouloir venir en France visiter Paris, il n'y a pas beaucoup de références Parigo.
Non.
On pourrait être dans une grande ville de province aussi.
Ça vient du fait aussi que je dois cacher la vraie Esther dans le monde réel. Donc je ne parle pas de lieu précis. C'est flottant l'endroit où. Voilà. Je ne veux pas qu'on puisse la retrouver.
Les cahiers d'Esther, histoire de mes 12 ans, c'est signé Riyad Satouf, c'est chez Alary Édition. Voici Sydney Love dans la bande originale.
Bonjour à tous, bonjour Nagui. J'espère que ça va, que vous avez la forme. Est-ce qu'il y a, ça vous dérange mon chewing-gum?
Il y a un petit problème, ça passe très mal à la radio le chewing-gum.
Non, c'est pas moi, c'est ma Nicorette, c'est pour du bien-être, parce que c'est le mois sans tabac, Nagui. Et j'avoue, si j'avais pas ma Nicorette, je serais en train de tout vous fumer là. Mais sérieux, pourquoi ils ont choisi le mois de novembre pour faire le mois sans tabac? Ils pouvaient pas le faire en juillet quand t'es moins en dep, sérieux? Et moi, c'est bien, je trouve. Moi, je dis, si ça met fin à des trucs dangereux, après le mois sans tabac, on fait le mois sans tabite contre le harcèlement. Je sais pas, je propose. Aujourd'hui, c'est pourquoi je voudrais partager mon savoir et sensibiliser les jeunes à l'arrêt de toute activité tabagique. C'est pourquoi je propose un freestyle autour du tabac. Un freestyle, ça veut dire c'est pas répété. Musique. Oh, la vie est courte comme un pénis d'enfant. Arrêtez, pardon, excusez-moi, j'ai paniqué. Non, là, je vais faire un bad buzz et j'ai pas envie. Je retire ce que j'ai dit, France Inter. Musique. Jeune, j'étais une babe tout fragile. Je fumais devant le collège pour me donner un style. Je faisais ça pour que les autres ils sachent que j'étais une meuf stylée, même si j'avais de la moustache. Oh, ne fais pas la même erreur que moi, ado. Regarde comment j'ai mal terminé. Je bosse à la radio. La clope ne fait pas la popularité, mon ami. Sinon, Georges Alain aurait gagné la Star Academy. Fumais-tu, c'est marqué dessus. Arrêtez avec tes conneries, la mort c'est pas une vie. Elle va te nicotine ta mère. Elle va te nicotine ta mère. J'suis comme toi, j'aime les gros gros paquets. Ça me détend, mais la cigarette c'est de la monnaie. Ça fait des petites bourses et des petites bites. Et ça coûtera bientôt plus cher que le shit. Oh, à cause de la clope, tu seras impuissant. Comme Nicolas Hulot face au réchauffement. T'auras la laine, un chacal stressé. Qu'aurait mangé une personne âgée décédée. Cigarette est composée d'éléments vraiment pas bons, comme sélectionner Benzema et Evra dans tes poumons. Une cigarette, c'est 11 minutes de vie en moins. C'est le temps d'un rapport sexuel avec Daniel Morin. Fumais-tu, c'est marqué dessus. Arrête avec tes conneries, la mort c'est pas une fille. Elle va te nicotine ta mère. Elle va te nicotine ta mère, il a un dealer.
Je voudrais faire un petit rap pour tous mes fumeurs de gitane, les putois qui puent des doigts, les gogoles avec leur menthol, les petits culs qu'on a des bien roulés, la vapoteuse bien douteuse, les taxeurs qui n'achètent jamais de paquets, ces mêmes crevards qui m'ont volé tous mes briquets. Je tire la sonnette d'alarme, je verse une larme avant le drame, pour que la loi E20 ne soit pas vaine, je tire une petite latte de verveine.
Oh, oh non, 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 non. Fumais-tu, c'est marqué dessus. Arrête avec tes conneries, la mort c'est pas une vie. Elle va te nicotine ta mère. Elle va te nicotine ta mère.
Tu vas décéder.
FIAD, Sydney 2017. Oh, 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 oh.
Trop jeune pour mourir.
France Inter.
Chez Guina.
Ça y est, il est parti. Ça peut durer toute la journée.
C'est bien, bravo.
C'est réaliste que j'ai mal à la gorge, je suis pas rire.
Énorme, énorme.
Mais deux OBA.
Ramasse ton chewing-gum, toi.
Alison,
ah oui, ça rappelle un petit peu le style de quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Chiena.
Ah, Chiena.
Ouais. Ouais
bah, Chiena. Alison
Wheeler. Attendez, pardon, bah, Alison Wheeler featuring Riyad Sattouf.
Riyad.
Énorme, énorme.
Merci, Riyad.
Bah, merci.
Un flow d'enragé.
Chiena, faut dire, c'est Pascal Brutal.
Pascal Brutal.
Formidable album aussi de Riyad. Quel auteur. Quel auteur.
Mais j'adore. Non, mais j'adore. Ça vous va vachement bien.
Ah, j'adore le rap.
Il rappe bien, hein.
Non mais, il a le tempo, bon il flow. A le groove, ouais exactement, le bon flow. Le bon flow. Dans quelques, je sais plus où j'en suis du tout.
On
pourrait aborder quelques dates.
Exactement, merci de me remettre dans les rails. Mais surtout dans quelques instants, nous allons accueillir Stéphane Clerget, qui est un habitué maintenant de cette émission. On est toujours ravis de l'accueillir. Il est...
psychiatre il est pour ados.
Exactement.
On va pas le recevoir assez souvent, hein. vous souvenez pas de ce qu'il fait.
Et surtout, il a signé un livre aux éditions Limonade qui s'appelle « Comment devenir populaire ». Et c'est vrai que la popularité dans un bahut, dans la cour de récré, le regard des autres, c'est extrêmement important. On va en parler avec lui. Mais après, la bande originale de Riyad Sattouf. Oui. On va commencer dans les années 80...
10.
10 ouais. T'es sûr? 96 ouais. Pour être précis. Allez. Alexandra Lamy nous avait dit aussi qu'elle avait aimé danser des slow et rouler des pelles sur Still Loving You aussi.
Non, moi je regardais les gens le faire.
Ah, c'est vous dont elle parlait alors, le gars qui la regardait.
Vous avez trouvé la bonne entrée.
Et dans ces années-là, vous décrochez votre bac, bac littéraire. Un souvenir d'école en tant qu'élève, comment vous étiez?
J'étais pas un très bon élève sur la fin. Et sur la fin de la scolarité.
Ah,
j'ai été très très bon au début et je me suis effondré. Et je me rappelle vraiment de moments où j'avais la sensation que mes hormones m'empêchaient de penser. C'était un vrai truc. C'était que je comprenais pas. Je regardais le mur. J'étais habité par des pensées obsédantes. Enfin, c'était très très. C'était une souffrance. Ouais.
Donc, vous n'étiez pas populaire dans la cour de récré.
Ah non, non, pas du tout. J'étais une catastrophe.
Bah oui, il procédait une sorte de classification des camarades. Il y avait des catégories apparemment. Il y avait les cons.
Le dernier mec qui a fait ça, il a fait Facebook quand même. Hein. C'est Zuckerberg qui classait les filles sur son site internet. C'est de là qu'est venue l'idée de Facebook.
Ouais, mais là, c'est un peu comme Esther, j'ai l'impression. Il y a un peu des catégories. Vous avez la même typologie. Il y a les dominants.
Oui. Ouais, bien sûr, moi j'étais, vous savez, dans les groupes de singes, il y a toujours le mal alpha. Moi j'étais le mal oméga aux frontières du territoire qui essaie de se faire accepter, mais ça marche pas. Je mange les restes de noix des autres.
C'était pas des bonobos. Hein,
vous n'aviez pas de copains en fait.
En fait, j'avais des amis, mais qui étaient aussi des types aussi bizarros que moi. Donc, on était à la table des bizarros. En fait, on était ensemble parce que c'est la vie qui avait fait ça. On n'était pas ensemble parce qu'on l'avait choisi.
Ouais, ouais.
C'est vraiment la table des exclus, quoi, un peu. Et c'est vrai que cette vision de la société, je l'ai gardée. Et ça a influencé mes BD, je pense.
Ouais. Encore aujourd'hui ?
Oui, ouais, je pense, ouais, ouais. Quand je vais dans un restaurant que je mange avec des gens dans le groupe, ça m'est arrivé, par exemple, quand j'ai fait des films, vous savez, il y a des grandes cantines, toujours l'angoisse de me dire où est-ce que je vais m'asseoir, et les gens ne vont pas vouloir que je m'assoie avec eux. Ah ouais. Je m'assois un peu
à on retrouve la cantine avec Esther.
Ouais, c'est ça.
Et quand vous êtes autour de cette table ici, vous sentez aussi que vous avez des gens qui sont rejetés.
Personne à côté de
nous. Et où Esther a peur qu'on vienne la voir en disant bon, maintenant ça suffit, tu vas t'installer à la table.
Esther, elle est très populaire justement, elle a peur de perdre son statut. Elle fait très attention à ne pas le perdre.
Et alors tout de suite après le bac, vous allez à l'école d'art Cepivos, je crois, c'est à Nantes. Et là, tout de suite, on est dans un autre cadre que le cadre scolaire. Là, c'est l'épanouissement. On trouve des copains, on arrive
à... Les bonnes notes.
C'est hyper plombant, ce que je regardais pas du tout. Mais, il se trouve que là, comme j'étais étudiant en art, je faisais exactement ce qui me passionnait dans l'existence, parce que j'étais vraiment passionné depuis toujours, en fait. Et donc, j'ai parlé à personne pendant 2 ans, vraiment. J'étais chez moi et je dessinais toute la journée. J'étais un des meilleurs élèves de l'école, je veux dire pour frimer, mais c'est vrai. Et je dessinais tout le temps, du matin au soir, jusqu'à 4h du mat. J'avais l'impression d'avoir été empêché pendant des années et j'avais pas besoin de vie sociale à l'époque. Ouais, c'était...
Et la musique, puisque là, on écoutait Scorpion, Still Loving You. Si vous étiez seul dans votre chambre d'étudiant en train de dessiner et d'écouter de la musique.
Ouais, mais alors, bon, la musique que j'écoutais, moi, j'étais un fan de hard rock et de death metal et de trucs comme ça.
C'était pas Still Loving You, vous écoutiez ?
Ah, mais Still Loving You, c'était au lycée.
D'accord.
Mais Scorpion, c'est un groupe de métal. Hein.
Ouais, mais enfin, qui a plus eu du succès avec ses balades.
Avec les balades, bien
c'est
sûr.
Ça. Ouais. Et là, ils ressortent un album de balades.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est leur truc, c'est les balades. En 2003, vous écoutiez... La musique ou l'altermondialiste que vous aimez chez Manu Chao?
Moi, j'avoue que j'ai eu une période où j'étais méga fan de Manu Chao. J'adore ses mélodies.
King Kong Fight, c'était vachement
voilà,
bien.
En fait, même, j'étais fan des...
No, listen to the beat of the sound,
ça y est, on va dire. C'était génial. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas fait d'album, d'ailleurs.
Il produit beaucoup, il travaille pour d'autres artistes, et il est un peu partout.
En plus, j'aime bien le fait, enfin, c'est toujours pareil, il a l'air un peu... faible, il est pas très très beau, il est tout petit.
Il est pas faible du tout, il sait exactement ce qu'il veut, c'est un meneur.
Ah non, mais faible, je dis physiquement. Moi, c'est le physique, je ne parle que du physique. Il a l'air un peu malingre comme ça, et je m'ai bien m'identifier à lui.
Ouais, vous identifiez dans ce côté pas. Ouais.
Pour la petite anecdote, c'est le seul en 25 ans de Taratata, c'est le seul invité qui a fait l'émission et qui, à la fin de l'émission, au moment du final, généralement, on salue, on dit merci, la générique de fin, et puis avec les artistes, j'y raccompagne dans la loge. Lui ne veut absolument pas de ça. Il reste sur le plateau, il s'est mis près de la porte de sortie. Il y a quand même à peu près entre 500 et 580 personnes par émission, et il a fait des hugs aux 580 personnes.
C'est Ama, quoi.
Voilà, c'est exactement. Il a ou fait des bises ou des hugs aux 580.
Il a fait la prison pour ça aussi.
Pour revenir à 2003, Riyad, c'est là que vous signez chez Dargaud, en fait, pour la première fois. Qui vous donne votre chance et quel souvenir vous avez précisément de ce moment-là?
Ouais, bien sûr, mais c'était un éditeur qui s'appelait Guy Vidal. Et qui était un éditeur historique qui avait été rédacteur en chef de Pilote. Et j'avais été refusé chez de très nombreuses maisons d'édition. J'avais envoyé des dizaines et des dizaines de projets. Et c'est le premier qui m'a offert la possibilité d'écrire une histoire et de la dessiner. Et en fait, il est décédé 6 mois après. Il n'a jamais vu mes bandes dessinées.
Ça vous fait rire.
Non, mais ce que
je veux dire.
Non, mais
ce
que je veux dire, c'est que je lui dois toute ma. Je lui dois tout, en fait. C'est-à-dire, c'est le premier qui a dit. En plus, il avait une voix, je me rappelle très bien, il m'avait appelé. Il m'avait dit. Allez, ça m'a fait rire votre truc là. Allez, c'est bon, allez, on fait le contrat et tout. Et c'était le plus beau jour de ma vie. Je m'étais acheté une veste toute pourrie pour avoir l'air sérieux.
C'est super triste, le pauvre, qu'il n'ait jamais vu votre succès.
Bah oui, mais.
C'est comme ça.
De lui. Oui, mais bon, je lui dois tout. Je le remercierai jamais assez.
Il fallait qu'il appelle plus tôt.
Et donc, une veste pour l'occasion, moi ça m'intéresse, les petits gris-gris. C'est-à-dire quoi? On va acheter un stylo en particulier, on se dit on le gardera toute sa vie.
Non, je m'étais dit que si j'allais, parce que je devais aller signer le contrat chez l'éditeur, c'était mon premier contrat. Et je m'étais dit, il faut que j'ai l'air crédible. Ouais. Et en fait, comme j'ai une voix un peu efféminée, que j'avais
des... Une voix de lopette, je dirais.
Et je suis pas très baraqué et tout. Je m'étais dit, je vais mettre une veste. Ouais. Et ça, je vais avoir l'air extrêmement crédible, comme aujourd'hui un peu. Et j'avais acheté une veste beaucoup trop petite. Et j'étais dans son bureau. Et en fait, je sens qu'il a hésité au dernier moment de dire, je le signe ou je le signe pas. Finalement, il a l'air vraiment... J'étais trop content. Après, j'ai couru toute la...
J'ai remonté la rue.
C'était vraiment le plus beau jour de ma vie.
Riad Satouf signe les cahiers d'Esther, histoire de mes 12 ans chez Alary Édition. On comprend aussi qu'il y a un peu de vous, beaucoup de vous dans cette bande dessinée. C'est psychanalytique, ben justement. Stéphane Cargy, merci de venir à ce micro à nouveau. Stéphane, vous avez signé donc Comment devenir populaire aux éditions Limonade. C'était il y a un an et demi.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Quelle est la définition de la popularité pour un ado?
Pour un ado, être populaire, c'est être d'abord apprécié par le plus grand nombre. Et surtout, c'est ne pas être. C'est ne pas être, comme l'a dit Riad, exclu ou bolos ou sale. Bolos. Et ne pas être non plus inapparent. C'est-à-dire être remarqué et puis avoir beaucoup de likes sur les réseaux sociaux.
Ah, c'est ça. C'est-à-dire que les amis, ce sont les amis d'abord virtuels?
Pas d'abord, non.
Bah non,
mais ça va de... Il faut qu'il y ait de...
Facebook, Twitter, Instagram.
Oui. Si on n'est pas connecté, on ne peut pas être populaire. Ça, c'est... Aujourd'hui, c'est une des conditions.
Oui, mais ce n'est pas sincère, cette reconnaissance-là, cette amitié-là.
C'est quand même... La majorité, c'est quand même les amis du collège. Hein. C'est-à-dire que c'est globalement, quand même, sur les réseaux, ils se retrouvent entre eux. Ce sont les mêmes.
C'est l'équivalent, à notre époque, de qui va faire la bise à qui, en gros.
Oui.
Si on veut transférer un peu les likes, on n'avait pas les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'au collège...
Enfin, on n'est pas de la même époque. Je ne sais pas qui vous embrassiez à l'époque.
Non, je sais pas qui, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde...
Mais toi, tu es une fille, tu ne te rends pas compte. C'est-à-dire que nous, les garçons, tu ne te rends pas compte que c'est vous qui décidiez de faire la bise ou pas, et que nous, les garçons, on regardait passer les filles, et il y avait des filles qui jamais ne nous faisaient la bise.
Puis attends, il y a des filles aussi, pardon, qui n'étaient pas populaires et qui étaient au même rang que les garçons.
Non, ça s'appelle moche, c'est pas une question de popularité.
Alors, je devais en faire partie.
Non, c'est faux,
tu t'es bien rangé, regarde.
Non, mais c'est vrai que l'apparence joue beaucoup dans la popularité.
Mais non, mais évidemment,
les ados,
c'est... Oui, il y a eu des fringues. Un mec moche peut être populaire, on prend Gainsbourg, mais une fille, on va dire, elle est moche, donc elle ne sera pas. Attention.
Alors attention. Sa popularité n'a pas été due à son physique, entre guillemets, ingrat, l'homme à tête de chou.
On lui passait beaucoup de choses aussi.
Mais parce qu'on a vu son talent, parce qu'on a vu sa sensibilité, c'est la beauté intérieure après qui l'a rendu beau.
Mais beaucoup de mannequins n'étaient pas populaires adolescentes parce qu'elles étaient trop grandes, trop maigres, un petit peu difformes.
C'est justement le trop qui pose un problème, c'est le pas dans la norme.
Oui, c'est ça. Il y a des conventions qui évoluent en fonction des époques et des lieux. Et il s'agit d'être dans la norme. Ce qui est étonnant, un âge où a priori on veut justement se différencier, il y a effectivement des critères auxquels il faut adhérer. Et si on n'a pas 80% de ces critères, on n'est pas populaire.
Ça passe par donc les smartphones, comme on le voit dans la bande dessinée de Riad Satouf. Ça passe par les fringues aussi,
les marques.
Les marques aujourd'hui. Avec la crise économique, on parle moins des marques, mais malgré tout, cette pression est moins forte, mais il y a quand même certains vêtements qui sont à la mode. Il en faut moins. Le matériel, effectivement, certains outils comme le smartphone. Mais c'est aussi une façon d'être. C'est avoir un peu l'air cool et être un minima dans la transgression, c'est-à-dire faire des choses un peu risquées,
oser,
répondre
à un prof ou c'est
ça peut être
faire
ça,
le mur.
Oui, non, ça peut être se maquiller, ça peut être...
Pourquoi vous avez haussé les épaules quand je dis faire le mur? Dans votre regard, il y a un côté pauvre naze.
C'est plus d'actualité.
Ils
ont les clés des maisons, les gamins, maintenant. Qu'est-ce que tu veux qu'ils s'ennuient?
Ils ont la clé du mur.
Non, mais je parle du bahut. Moi, je parle du bahut. C'est sécher le cours, c'est pas...
Voilà.
Si, je comprends encore sécher les cours.
C'est une autre époque.
Ça se fait de sécher les cours, non?
Oui, ça se fait, tout à fait.
Ça se fait, il faut pas le faire, mais ça existe encore.
Oui, tout à fait. Non, mais vous avez raison. Peu de transgression.
Non, mais changez pas, vous m'avez méprisé. C'est humiliant.
Non, se voyez
il
pas.
Je vais aller voir le psy.
Vous serez populaire, vous avez les chaussures, par exemple.
Il se fout de ta gueule, Nagui. C'est
incroyable.
Le lendemain de ton anniversaire, c'est adieu.
Maintenant, il m'agresse. Il m'agresse sur mes pompes.
Mais non, ils sont magnifiques.
J'aimerais les mêmes.
Est-ce qu'il y a. Il n'y a pas ma taille. Est-ce qu'il y a la notion de chef de bande? On parlait tout à l'heure de la table des Bizarros, c'est ça?
Ouais. Voilà. Je dirais les les puceaux. À l'époque, c'était un peu les exclus complètement.
Oui, c'était les seuls.
Il y a toujours un côté claniste, tribu. T'étais avec qui? T'étais reconnu par qui?
Oui, c'est-à-dire que c'est le début des classes sociales, quoi, qui commencent à se mettre en place au collège.
Ouais. Sauf que c'est pas l'argent qui va décider.
Ça joue quand même un peu. Il n'y a pas que ça, mais c'est un facteur. Ça dépend après des milieux. Ça peut être l'argent justement dans les milieux fortunés où là, on évalue, où ils répètent un peu ce que disent les parents, parce que les parents sont aussi dans des comparaisons matérielles. Dans d'autres milieux, c'est moins l'argent, c'est plus le côté justement transgressif, par exemple.
Est-ce que ça peut être la musique avec ceux qui aiment tel genre de musique, ceux qui n'aiment pas tel genre de musique?
Oui, alors là, il faut être conventionnel. C'est-à-dire que c'est effectivement les musiques qui ont le vent en poupe. C'est-à-dire qu'il s'agit pas, on peut pas être populaire si on écoute. Alors c'est peut-être moins vrai du temps d'Esther qu'à notre époque, mais on peut pas être populaire si on est trop fixé sur des musiques d'autrefois.
Et dans la popularité entre guillemets chez les adolescents, est-ce que la sexualité a un rôle essentiel entre ceux qui sont justement
puceaux comme Riyad,
désirés, désirables, puceaux, pas puceaux, tout
clash.
Ça.
C'est...
Oui, alors puceaux ou pas puceaux, en tout cas,
il était beaucoup plus. La première fois qu'il est venu, il était sur la réserve. Là, maintenant, il est au second. J'ai compris.
Puceaux comme Riyad, c'est pas des manières.
C'est l'histoire de ma vie. Ça a toujours été comme ça.
Avec la voix qui déraille, c'est très bien.
Oui, non, c'est vrai. Être à l'aise dans son corps, être dans le flirt, voire coucher pour les plus grands, évidemment. Ce sont des facteurs de popularité. Mais ce qui serait intéressant, justement, c'est d'amener des personnes au collège, des personnes comme Riyad, qui ont dit, voilà, moi j'étais un exclu, voilà, maintenant je passe à l'émission de Nagui. Pour donner un peu courage, justement, à ceux qui sont pas populaires, parce que une grande partie des populaires, on le sait, finissent mal.
Oui, c'est vrai.
En général,
c'est
pas eux qui, et à l'inverse,
qui le reste adulte.
Quand on les retrouve sur Facebook.
Et à l'inverse.
Ouais, oui, c'est ça.
Alors justement, à l'inverse. Ceux qui étaient des frustrés, que ce soit
Riyad,
ou moi, mais j'ai toujours le dernier choisi.
Moi, je vous aime bien autour de la table.
Dans l'équipe de foot, on est toujours le dernier choisi. C'est le truc humiliant.
Ah, bon,
toi tu joues mal, tu vas aller dans les buts. Ouais, c'est ça. C'est le truc.
Tu fais l'arbitre.
Voilà, exactement. C'est pire que tout. Tu feras un remplaçant parce qu'il y avait un nombre.
Remplaçant d'arbitre.
C'est finalement dans ces frustrations. Et peut-être que si Riyad avait été populaire dans la cour de récré, il n'aurait pas eu cette énergie pour dessiner, il n'aurait pas eu cette vision de la société, ce sens de l'humour, sa manière d'analyser justement les fêlures.
Ça a pu lui donner l'énergie de la revanche, ça lui a pas donné le talent. Donc il faut quand même avoir le talent. Ouais. C'est pareil pour vous. Si vous aviez pas le talent en football, vous seriez pas devenu le grand champion.
Tu me méprises encore, mon Dieu.
Non mais ça suffit pas.
Vous sortez.
Ouais. La souffrance, ça suffit pas.
C'est génial. Continuez.
Il faut quand même.
Mais
le
tu te laisses faire, Nagui. Je t'ai jamais vu comme ça. C'est une soumission.
Jean-Jacques Goldman l'avait dit, mais l'ancien
chanteur,
dans beaucoup d'interviews, avait dit qu'il s'était mis à la guitare pour plaire aux filles, parce qu'il ne plaisait pas aux filles, qu'aucune fille ne le regardait, et que pour draguer, la solution, c'était de prendre une guitare et d'essayer de trouver des chansons qui les touchent.
Ou ceux qui
les
font rire aussi, c'est pareil.
Bien sûr.
Non, mais c'est sûr que le désir sexuel est un sacré moteur pour réussir. Non, mais c'est vrai que ceux à qui tout est donné d'emblée, ils vont faire évidemment moins d'efforts pour se perfectionner, pour s'améliorer.
Et peut-être donc moins réussir leur vie que ceux qui, à l'école, sont frustrés. Ça peut rassurer beaucoup de parents.
Oui, en d'ados surtout.
C'est ça.
Oui. Parce que les parents ne sont pas forcément au courant que leur ado n'est pas populaire. L'ado ne va pas le dire. Hein. Il va pas, au collège, on ne parle pas beaucoup à ses parents. On ne dit pas qu'on n'est pas populaire. Donc les parents ne sont pas au courant de ça. Du manque de popularité, de la souffrance, du fait que l'ado n'est pas populaire. Ça, les parents ne sont pas au courant.
Ah, vous parlez de la souffrance.
Parce qu'elle
est abordée par Riyad aussi.
Oui.
La souffrance, la violence.
Oui, non, on rigole, mais ça peut être dur.
Et comment?
Oui, le harcèlement scolaire aussi.
Est-ce qu'il y a des élèves qui s'en moquent? Moi, personnellement, je me suis jamais posé la question de la popularité. Je trouvais même que les gens populaires étaient des gens assez, pas méprisables, mais...
C'est pour ça que t'es venu sur Internet.
Assez superficiels, en fait.
C'est ceux qui s'en tirent le mieux. Ceux qui sont ni bolosses, parce qu'ils sont quand même à risque, hein, parce qu'ils peuvent quand même se faire du mal ou souffrir d'avoir été harcelés. Ni les populaires qui se reposent trop sur leur laurier, qui sont souvent pas les plus malins, mais ceux qui effectivement, comme vous, étaient déjà dans une réflexion un peu mature, à pas être mouton finalement, et avoir tout de même des atouts, et avoir un cercle relationnel suffisant pour se sentir intégré, eh bien c'est effectivement les ados qui vont le mieux. Ça ressemble un peu à Esther d'ailleurs, je pense qu'elle se dit populaire. Est-ce qu'elle est vraiment si populaire que ça? En tout cas, elle est bien intégrée.
Est-ce que vous dites, votre livre s'appelle « Comment devenir populaire ». Est-ce qu'il y a justement un mode d'emploi pour les ados? Est-ce qu'il y a des étapes obligatoires? On a parlé des réseaux sociaux.
Alors, il y a ce que disent, il y a des témoignages d'ados qui donnent leurs conseils, donc ça tourne autour de tout ce qu'on vient de dire, là, l'apparence. Mais je pense que en tant que parent...
Il y a fumer, boire aussi pour être populaire.
Ben justement, l'idée, c'est d'inviter les adolescents à ne pas passer par là l'être. Parce qu'il y a des bonnes façons de l'être et des mauvaises façons.
Mais pourquoi l'être? Pourquoi l'être populaire? Moi, là, c'est là que je comprends
pas.
Ben, c'est cool, mais peu importe. C'est un moment... La blessure, quand on explique la blessure ressentie par ceux qui ne sont pas intégrés, c'est comme si on donnait un mode d'emploi. Comment tu vas faire pour être vu comme quelqu'un de cool à l'école?
Parce que quand tu n'es pas populaire, tu es seul. Quand tu n'as pas d'amis, tu es seul.
Oui, mais sauf que si on t'explique aussi à la maison que tu vas pas... C'est pas parce que tu portes telle marque que tu seras apprécié pour ce que tu es. Non, et c'est pas parce que tu seras
populaire.
Moi, je comprends pas.
Mais là, ils vous entendent pas si vous leur dites ça. Et ce livre, c'est évidemment l'idée, c'est évidemment pas de leur dire d'être comment prend telle marque et tel téléphone, mais c'est de profiter, j'allais dire, de l'envie d'être populaire pour pousser son ado à développer ses diverses compétences. À faire du sport, à faire de la musique, à développer des compétences qui, stricto sensu d'ailleurs, ne rendent pas spécialement populaires, mais permettent de se sentir plus sûr de soi. Parce que le vrai problème, il est là. C'est d'abord un manque d'assurance qui fait qu'on a envie d'être populaire.
Ouais, les gamins courent après quelque chose.
Mais vous aussi,
dans la vie active,
on a tous envie de s'améliorer.
C'est une reconnaissance.
Oui, mais la reconnaissance, on peut aussi, ça dépend de qui on la veut. On peut la vouloir de ses parents ou, on n'est pas obligé de la vouloir d'inconnus qui se baladent dans une cour d'école dont on n'a rien.
Ce ne sont pas des inconnus, ce sont tes copains de classe.
On est d'accord, et pour l'ado, le regard des parents ne suffit plus. Ouais, on veut justement le regard des autres.
Et d'ailleurs, être populaire, il vaut mieux être, par le prisme d'un adolescent, il vaut mieux être rebelle qu'être le meilleur à l'école. C'est-à-dire, le meilleur, c'est celui dont on se moque, parce qu'il a eu 20 sur 20, donc il
craint. Alors, ce que vous dites est vrai, mais en fait, ça dépend des collèges. C'est-à-dire, dans les lycées d'élite, les collèges d'élite, chez H4, comme vous dites, là, dans ces collèges-là, par exemple, c'est important d'avoir des bonnes notes, alors que dans d'autres, au contraire, c'est très très mal vu, surtout si on a un garçon.
Ça peut être aussi être le meilleur. Arthur Rimbaud, c'était le meilleur à 15 ans.
Non, je suis d'accord, mais c'est pas interprété.
C'est vrai, donc faire attention à ces interprétations.
C'est pour ça que
mettre les gens dans des cases à tout prix.
Oui, mais sauf
ce qui compte, c'est le tempérament.
Mais Rimbaud fumait pendant la cour de récré.
Oui, mais
il fumait comme un salaud.
C'est pas le problème, c'est que c'est pas le cas.
Il y avait de l'absinthe à l'époque dans les distributeurs. La popularité, on l'a dit, n'est pas forcément, ne s'induit pas avec la vie d'adulte. On peut être populaire ado et ne pas l'être du tout quand on est adulte.
Prenez Béron, en général, c'est ça d'ailleurs.
C'est en général
assez souvent quand même. Les plus populaires, surtout ceux qui sont dans la transgression, en général ne le restent pas forcément adultes.
Comment devenir populaire, ce sont des témoignages. Donc c'est publié chez Limonade, signé par le docteur Stéphane Clerget. Merci malgré tout, Stéphane, d'avoir été
notre invité pour notre la dernière fois.
sur Inter. Tanguy Pastureau est extrêmement populaire. Tanguy et Johnny Depp.
De plus en plus.
Johnny Depp qui est pressenti pour être le rôle du père par Esther dans la bande dessinée d'Auriat Satouf jouera de la musique en France en juin prochain.
Oui, puisqu'il va jouer au Hellfest, le festival des fans de métal qui se font sauter le cérumen des oreilles en écoutant leur groupe favori. Depp joue dans Hollywood Vampire, qui n'est pas le biopic d'Harvey Weinstein, mais un groupe de rock. Alors musicalement, c'est comme Étienne Dao, mais avec du son. Et le Hellfest, c'est déjà complet.
Et Tony Pastureau, ça sera à midi 10. Voici la cascade de questions pour Auriat Satouf, des questions courtes avec des réponses courtes. Leïla.
Esther.
Non, j'ai pas de problème avec ça.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, docteur?
C'est bon signe.
Riyad, votre coin de Bretagne préféré?
Ah, moi, c'est le Cap Fréhel.
Daniel Morin.
Le geste de beauté d'Esther du matin quand elle se réveille.
D'Esther, oui.
Ah, elle se peigne longuement et elle essaie de cacher ses boutons avec sa mèche.
Ah, stratégie.
Albert Algou.
Le dessinateur que vous admirez.
Hergé.
Alison Wheeler.
Le mot que vous n'arrêtez pas de placer dans vos planches.
Mais, quand il dit mais il est trop beau, quoi.
Elle s'est tout fait notre invité jusqu'à midi et demi sur France Inter. C'est la bande originale, bienvenue avec Leïla Kadourani.
Et bonjour.
Alison Wheeler.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour.
Tanguy Passureau.
Bonjour.
Salut Tanguy.
Albert Algou.
Bonjour.
Et notre invité Riyad Satouf. Esther aussi, qui est un peu notre invitée.
Bah ouais.
Les cahiers d'Esther, je vous ai déjà posé la question tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr que vous ayez répondu quand j'ai demandé si elle avait des droits d'auteur.
En fait, je vais vous répondre parce que j'espère qu'elle ne va jamais écouter ça, mais en fait, elle en a.
Elle les a déjà. Non, mais c'est cool.
C'est qu'elle n'est pas au courant.
Ah ouais.
Non, parce que maintenant, elle va.
Parce qu'elle est tellement. Non, mais non.
Elle ne s'intéresse pas à cette émission.
Ses parents ont vu un avocat récemment.
Non, parce qu'elle est tellement essentielle dans ce jeu d'entretien et qui est. On était avec Stéphane Kergé tout à l'heure, qui est psychanalytique, pour elle comme pour vous d'ailleurs, non?
Oui, mais alors c'est vrai que je change quand même pas mal de choses pour pas qu'elle grandisse avec ce double. Disons qu'elle, quand elle lit les pages, elle me dit ah, tu devrais peut-être mettre plus les vrais noms et tout. Elle est presque déçue que je la dissimule comme
mais
ça.
Mais les vannes, par exemple.
Les vannes, c'est son humour aussi, c'est un peu c'est son humour.
Elle est très bien dissimulée ou est-ce qu'il y a des indices qui feraient qu'on pourrait la reconnaître si on la croisait? Est-ce que ses amis
la
reconnaissaient?
Non, je pense qu'elle est quand même bien dissimulée. Je ne veux pas frimer.
Et elle ne s'appelle pas Esther.
Elle ne s'appelle pas Esther.
Voilà. Puis elle a un côté, pas universel, mais représentatif aussi de sa génération. C'est pour ça que la BD est si bonne. C'est que beaucoup de gens peuvent s'y retrouver, des petites filles aussi.
Ce que je voulais, c'est avoir le goût de l'enfance, le goût authentique en fait. Donc j'ai besoin de son regard dans le projet.
C'est drôle, c'est intelligent, c'est un vrai baromètre de ce qui se passe dans nos vies, aux uns et aux autres,
une fois.
On n'est pas obligé d'être adolescent pour être touché, mais en étant adolescent, on est touché. On n'est pas obligé d'être parent d'adolescent, on l'a tous été à un moment ou à un autre, et ça parle parce que c'est très présent,
tout le monde
c'est très actuel, c'est très drôle. Ouais. Tout le monde doit l'acheter même,
j'allais plus loin.
Il y a une planche donc où elle imagine que sa vie devient un film, où elle voit Johnny Depp avant son Hellfest, devenir incarner le rôle de son papa. Vous parlez d'un dessin animé qui va avoir lieu. C'est vous qui allez forcément le diriger, pas le dessiner. J'imagine que c'est un travail.
Je fais très attention. En fait, je le co-réalise avec un garçon qui s'appelle Mathias Varin. Et en fait, je fais très attention aux voix des personnages.
C'est-à-dire plus qu'à l'esthétique.
Le dessin, ils vont refaire exactement le style de mes bandes dessinées.
Oui, ça sera animé.
Oui, mais ça, c'est très cadré. Il y a pas, ça peut pas être animé comme un Disney ou ça peut pas être animé. Donc moi, c'est surtout le son des voix et le rythme de l'humour et qui est très 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 important.
Et comment jouer la couleur? Parce que en fait, vous êtes bicolore, j'ai envie de dire. De temps en temps, il y a une couleur qui peut intervenir, mais qui nous fait comprendre que on est en train de regarder la télé ou qui nous fait comprendre qu'on est dans un rêve ou qui nous fait comprendre que...
Différents niveaux
voilà,
d'énonciation.
C'est plutôt, c'est plutôt des couleurs d'humeur. Et là, comment le faire pour un dessin animé?
Ça va être... vraiment, le style graphique du dessin animé va être très très proche de la bande dessinée. Ce sera en deux couleurs aussi.
C'est dans la charte, quoi. Vous avez dit, moi, je suis d'accord, mais je veux que ce soit comme ça.
De toute façon, je suis un maniaque de ces trucs-là, donc mes livres, ils se ressemblent dans tous les pays.
J'ai reçu un texto d'un camarade de jeu qui me demande de vous parler de Jackie au Royaume des Filles, votre film.
On adore.
Et ce monsieur dit, pour moi, c'est la plus grande comédie de ces 10 dernières années, un véritable manifeste féministe.
Et là, il est en train de chialer.
Personne n'allait le voir quand c'est sorti.
C'est
un four énorme. Merci.
C'est signé Harvey Weinstein.
Non, c'est signé Eric Laven, qui est un très bon réalisateur aussi, qui s'y connaît en termes de comédie et d'écriture.
Pour La Rose, par exemple.
Pour vous, c'est une casserole, Jackie, ou au contraire, c'est un rendez-vous raté?
Non, je suis super heureux d'avoir fait.
Ça a été beaucoup vu après en streaming
illégalement, c'était très téléchargé illégalement, c'est un défi. Mais c'est vrai que c'était mon deuxième film après Les Beaux Gosses, qui avait eu beaucoup de succès. Le deuxième a eu
un César quand même.
Oui.
Et plein de nominations.
Pardon?
Et plein de nominations.
Oui, c'est vrai, le deuxième, donc c'était Jackie avec un peu les mêmes acteurs d'ailleurs, lui pour le coup.
C'est aussi un manifeste féministe, les Cahiers d'Esther, pour vous?
Mais je peux pas dire que je fais des manifestes féministes. Disons que je parle d'une jeune fille.
Mais vous respectez les femmes et vous les comprenez.
Mais c'est surtout qu'en fait je.
Comment tu veux répondre non?
Je ne les respecte mais pas.
Moi, c'était à vous les comprenez.
Ayant grandi en tant que garçon, ça m'intéresse beaucoup de voir comment une fille grandit. En fait, c'est un univers que je ne maîtrise pas. Je ne connais pas les codes. Je ne connais pas la façon de faire. Je sais que quand on est un garçon, pour être respecté par les autres garçons, il y a tout un tas de comportements à suivre. Mais pour les filles, comment ça se passe? C'est pour ça que j'ai fait cette bande dessinée.
Les Cahiers d'Esther chez Alary Éditions, c'est du très bon. Riyad Satouf aussi, ça devient un pléonasme maintenant de le dire. Tanguy Pastureau, c'est l'heure, 12h11 sur France Inter. Pourquoi on n'applaudit pas Tanguy Pastureau?
Je ne sais
pas.
Alors, il a trop de charisme.
Tanguy, donc Johnny Depp sera au mois de juin en France.
Oui, Johnny Depp, c'est ce monsieur qui a 53 piges et vit comme s'il en avait 17. Il picole, s'enfile par le nez tout ce qui bouge. Dans un resto italien, c'est le seul à sniffer le Benco qu'ils mettent sur le tiramisu. Et il doit se trimballer 15 MST parce qu'il est aussi actif qu'un Yorkshire qui tripe sur les collets et viendrait de se farcir l'intégrale DVD de La Six Chiens Fidèles. Quand j'étais au collège, toutes les filles aimaient Johnny Depp car il était beau et sombre et rock, alors que moi j'avais juste des boutons. Je suintais, dès qu'on m'appuyait dessus, ça giclait, comme Strauss-Kahn me répartit sur le corps entier. Si Twitter avait existé en 87, on aurait dénoncé les pores de ma peau avec le hashtag balance tes pores. Et 30 ans plus tard, je suis au top, je côtoie Nagui, Ardisson, quand je vois télé 7 jours en kiosque, je crie maison, un succès fou, les gens m'attendent devant Radio France en criant prends-moi ton geek, j'ai une bonne raison de la payer cette redevance. De Morant a pas voulu, il dit qu'il est crevé parce qu'il se lève tôt. Alors que Depp, usé par les abus, est lui en train de moisir, tel un vieux cèpe dans une clairia fréquentée par des couples venus juste pour l'exhibe. Il a les chicots gris, le cheveu sale et des valises sous les yeux à se les faire compter en supplément par EasyJet. Nathalie Lambert, Natacha Martin, Sandrine Lefebvre, c'est sur moi qu'il fallait baver à l'époque, sombre crétine, pauvre connasse, pas sur votre poster de Depp. Bref, Johnny Depp continue sa vie de rocker décati à la laine de poney. Et on a appris hier qu'il jouera en juin 2018 au Hellfest, le festival de métal. Musique à côté de laquelle Céline Dion en pleine rupture de glotte, c'est Carla Bruni qui murmure. Plus il vieillit, plus il agit comme un jeune, à l'instar de Mélenchon, qui a passé 30 ans à pioncer au PS avant de se réveiller à 50 balais en se disant « le tché m'habite ». Depp fait de la gratte dans le groupe Hollywood Vampires, qui comprend aussi Alice Cooper et Joe Perry d'Aerosmith, des anciens, les baladures du métal. Damar leur a fabriqué des soupules en cuir. Au Hellfest, il y aura aussi Iron Maiden, c'est énorme, ça équivaut à avoir Lance Armstrong dans un congrès de pharmaciens. Et Judas Priest, qui existe depuis 69, comme l'envie de François Bayrou de devenir un jour président, et qu'on accusait de diffuser des messages sataniques quand on passait leur disque à l'envers. Ouais. Voilà, on disait qu'on entendait « Suck the Lord, suce le Seigneur », ce que même Christine Boutin en club coquin face à un barbu sosie de Jésus n'oserait pas dire. Alors plein d'artistes ont fait ça. Quand on passait les 45 tours de Dick Rivers à l'envers, on entendait, je vous jure, c'est pas une perruque. Et sur ce désirless, désolé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'avais que ça sous le coude.
Alors c'est pareil, ça trouve qu'il dirait le contraire. Fan de métal, le métal rencontre un succès populaire énorme.
Mais oui, par exemple, le Hellfest était complet avant qu'ils annoncent un seul nom. Ils pouvaient encaisser l'argent, se tailler et caler Jennifer en lui disant maintenant, cocotte, tu hurles. Voilà du cuir, des clous, 27 bières. Fais juste pas ta chanson au soleil, mais plutôt dans la nuit noire par temps de brume avec des chauves-souris. Ça, tu peux. Car le métal, c'est sombre. Les types sont barbus et livides. Tels des bûcherons qui, en débitant un chêne en forêt de pimpons, auraient trouvé un druide mort. Et ça commence par les noms de groupes qui sont atroces. Par exemple, il y a Vomitory, des Suédois tout blancs. Quand ils se perdent dans la neige, on met 14 jours à les retrouver. Il y a le groupe sublime cadavérique Décomposition. C'est du porno gore grind. Sur leur pochette, on voit des tripes et des fesses. Un peu comme chez le boucher s'il avait confondu sa femme avec le rôti de veau. Oh. On a le groupe Analcunt, des mecs dont on sait qu'ils ne feront pas dans la dentelle. Non. Séduire une fille sensible qui fait prépa littéraire en lui disant « Salut, je joue dans Analcunt », c'est impossible. C'est pour ça que les filles sensibles écoutent Vincent Delerme, qui lui ne s'appelle pas Sphincter Explosion et qui est donc en balle. Et il y a le groupe allemand Sodom, qui pourrait jouer en première partie d'Analcunt lors d'une soirée thématique sur Dorset TV. Bref, si vous faisiez du métal, Nagui, vous vous appelleriez « Fucking Egyptian Mounter of Pussy Destruction ». Ça aurait de la gueule, mais vous avez choisi France Inter, où le plus hard qu'on diffuse, c'est Albin de la Simone qui reprend Loudoyon accompagné d'une dame qui fait du triangle. Alors Johnny Depp, lui, on est à ses débuts dans le métal, il n'a même pas encore invoqué Satan à cheval sur un bouc. Le métal, c'est une musique sulfureuse. Ouais. Et pourtant, au Hellfest, il n'y a pas une baffe d'échanger, alors que dans un concert de Franck Michael, vous dites aux mamies en transe, Franck va faire un bisou à quelqu'un au hasard. Ouais. Elles s'étranglent les unes les autres avec leurs bas de contention, avant de hurler, Franck, ma rose est à toi, et à l'âge que j'ai, elle est garantie sans épine. Johnny Depp est presque trop hardcore pour le métal, ce genre musical finalement bien sage.
Merci, bravo Tony Pastoreau. La bande originale, Lady sur France Inter. Riyad Satouf, notre invité, toujours fan de métal évidemment.
J'en écoute encore, oui.
Vous êtes allé au Hellfest ?
Mais alors jamais, c'est toujours complet.
Oui, mais il faut prendre sa place avant.
Il faut se dépêcher.
Demandez à Nagui.
Je voulais que nous parlions de ces chœurs simples, les chœurs simples, signés Albert Algout, du moins c'est une collection de textes où les simples d'esprit, l'idiot du village devient le héros, pas forcément la moquerie d'ailleurs d'un texte dans la littérature française. Et vous avez demandé à Albert, notamment à Riyad Satouf, mais aussi à de nombreux dessinateurs, d'illustrer certains textes. Vous, Riyad, vous êtes retrouvé pour illustrer John Steinbeck dans Des souris et des hommes. Ah.
Le texte est bouleversant et là, Riyad, il est surprenant parce que c'est pas le Riyad
dont on a... Ta voix.
Presque. On n'a pas...
Non, c'est le Riyad qui fait peur, en tout cas.
Oui, c'est le Riyad qui fait peur et qui a compris à la fois la finesse et la violence du texte. Parce que ces personnages, handicapés, arriérés mentaux, crétins, simples d'esprit, fada, je me suis aperçu qu'ils étaient très présents dans les littératures de manière fugace ou plus soutenue chez les plus grands auteurs. Hugo, Maupassant, Steinbeck, Gorky, Faulkner, et j'en cite d'autres. Et chaque texte est illustré par un grand auteur de BD. Ils vont de Baru à Zep, en passant par Bilal, par Binet, par Tardy, par Gay-Luc, qui ont tous accepté de faire don d'un dessin, parce que je précise que les droits de ce livre, Les Cœurs Simples, vont à un fonds de dotation, La Bonne Aventure, qui tente de, disons, d'aider des adultes autistes dont le sort est absolument scandaleux et pitoyable en France aujourd'hui. Donc si vous voulez faire une bonne action, vous achetez ce livre.
C'est que ça va faire du bien.
Pas trop cher. Pour Noël, ça fera un beau cadeau. C'est un très beau livre. La maquette est belle.
La couverture est dessinée par Zep. Ça coûte 25 euros. Et il y aura une vente aux enchères aussi.
Et il y a aussi une vente aux enchères chez Arcurial.
Parce que les dessinateurs sont des êtres humains généreux.
Certains des dessins et des planches ont été offertes. Par exemple, Mézières. Le grand dessinateur, auteur de Valérian, a offert une planche. Il est aussi dans Les Cœurs Simples avec 40 autres illustrateurs, tous de grands talents. Et je les en remercie encore parce qu'ils ont vraiment du cœur et je les remercie de tout cœur. C'est bon comme formule. On dirait Jack Lang. Pour ces cœurs-là.
Non, tout cœur. Et puis il y a cette. Comment dirais-je ?
C'est chez Casterman,
je précise. Cette compréhension, cette tendresse que l'on a pour ceux que l'on qualifie de simples aussi.
Oui, parce que tous ces textes que je citais, ils préfigurent souvent des descriptions, comment on appelle ça, pathognomoniques, c'est-à-dire, ils préfigurent les descriptions de la médecine. Par exemple, l'enfant sauvage, vous voyez, il y a un grand médecin qui s'appelait Itard. Pendant tout, jusqu'à Charcot, on commence à s'intéresser à la fin du 18e, avec le romantisme, à ces êtres faibles. Avant, on s'en foutait complètement. Et on se penche sur eux. Et bizarrement, ce sont souvent les écrivains qui se sont le mieux penchés sur eux. Et pas dans le pathos comme moi je pourrais le faire en tant que parent, vous voyez, mais avec un recul artistique et esthétique. Et c'est la même chose pour les dessinateurs. C'est pour ça que je tenais à remercier Riyad qui a fait un dessin, pour moi, tout à fait exceptionnel.
Chez Casterman. Albert Algout présente donc Les Cœurs Simples, Idiots, Simplés, Arriérés, Crétins des Alpes, et d'ailleurs une anthologie avec ses planches, ses dessins. Et en plus, ça fait du bien. Merci Albert,
d'en avoir
parlé. C'est la moindre des choses. Voici le rêve de Daniel Morin.
Aïe, comme on dit chez Moulinex, ça va chier dans le ventilateur. Des documents internes du ministère de la Culture ont fuité. Il y a du projet de réforme dans l'air, réforme du service public audiovisuel. Objectif, regrouper France Télé, Radio France et les autres sociétés du secteur. Un rapprochement qui va faire des vagues, puisque, selon le document, France 4 pour la télé, Le Mouv pour la radio devrait passer sur le web, France O devrait passer à la trappe, tout comme les bureaux régionaux de France 2, quant au local de France 3 et de France Bleu, elles devraient fusionner. Le but final, resserrer les effectifs et économiser du pognon. Bon les gars, vous avez compris, hein, les amis, vous avez compris le message, si on veut garder du boulot, il va falloir faire preuve de polyvalence. Tout ça, bien sûr, va créer des tensions. Et moi, la tension, ça m'épuise. Et moi, quand je suis épuisé, je m'allonge. Et quand je m'allonge, je ferme les yeux. Et quand je ferme les yeux, je bâille. Et quand je bâille, je m'endors. Et quand je dors, je rêve.
Je rêve.
Dans mon rêve, j'étais dans le bureau du nouveau DRH, du nouveau groupe Média Public, qui voulait me parler des nouveaux programmes. Bonjour, monsieur Morin. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est quoi vos projets au sein du nouveau groupe Service Public Tout en Un ? Je veux continuer comme avant, hein. Ma chronique 6h57, 11h midi et demi, à dire des conneries, une petite émission le dimanche pour changer d'air. Oui. En gros, ça nous fait 3 minutes le matin, 4 jours par semaine, ça donne 12 minutes. 80 en fin de matinée, 80 moins 4 de flash info, ce qui nous donne 76 par 5, 380 et 54 le dimanche. Et au total, ça nous fait 446 minutes de présence hebdomadaire pour le service public français. Ah, c'est pas mal, non ? Non, c'est beaucoup trop peu. On vient de renégocier avec Nagui. on le paye au forfait maintenant. Je peux vous garantir que là, on a un ratio temps de travail-investissement beaucoup plus satisfaisant.
Comment ça?
Eh bien, dans nos nouvelles grilles, Nagui garde ses émissions historiques, mais on change tout, on rebat les cartes, on redistribue tout. Voilà, du vieux avec du neuf, on rajoute encore et encore, on mélange tout. Ça va donner, tout le monde veut prendre ses paroles. N'oubliez pas les places. Taratatan et Télétata.
Mais il veut faire quoi en plus, Nagui?
Nagui va aussi faire la météo sur France Bleu 3 Paris, 8 fois par jour. Et enfin, il va présenter un nouveau jeu. Un mélange entre deux jeux existants sur la radio et la télé qui ne feront plus qu'un. Ça va donner question du jeu des 1000 euros pour un champion. Ça fait beaucoup, non? Non, surtout avec un planning comme ça, on amortit le coût d'investissement beaucoup plus vite. Et vu le chèque de départ, pour l'Égyptien, ça nous coûte un bras.
Vous voulez que je fasse quoi, moi, concrètement? Qu'est-ce que je fais de plus, hein?
On a fait un bilan de vos compétences et bonne nouvelle, vous avez un profil hyper polyvalent.
Tu parles.
Ça veut dire quoi? Je vais faire des trucs cool, j'espère.
Je ne sais pas si le mot cool convient.
C'est quoi?
On voudrait qu'une fois par semaine, vous fassiez les vitres.
Les vitres du studio 621?
Non, vous n'avez rien compris à notre vision globale.
Les vitres de tout Radio France?
Non. Les vitres de tout l'audiovisuel public français.
Je me suis réveillé en sursaut, je me suis précipité à la radio pour ma chronique matinale, l'esprit encore tout embrouillé et perturbé par mon rêve de globalité et de polyvalence dans le service public. Avant d'arriver aux ascenseurs, j'ai croisé un homme de ménage qui nettoyait les vitres en souriant. Et là, je me suis dit, ouais, tu feras moins ton malin, toi, qu'en plus de ton taf, on va te donner à faire une chronique. À demain.
Merci. La bande
originale. Avec Nagui. Les cahiers d'Esther, c'est très politique, on l'a dit en ouverture d'émission, parce que évidemment c'était pendant les élections présidentielles. C'est dingue d'être passé aussi à côté du football. Il y a rien, il y a pas du tout de ça. Vous en foutez tellement que ça du football.
Moi déjà, ça m'intéresse pas énormément, mais
c'est encore moins. Encore moins,
ouais. Elle parle des coupes de cheveux de footballeurs.
Oui, d'accord, mais ça c'est intemporel. Mais il y a par exemple, il y a rien sur l'Euro ou il y a rien sur Neymar.
En fait,
par exemple Mbappé.
Il est
populaire, non? J'imagine dans les
balles. Esther, pour elle, le foot c'est une activité maléfique que font les garçons dans la cour. Elle comprend pas l'intérêt du. Elle n'a vraiment aucun intérêt pour ça. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Je lui demanderai de me préciser des choses sur le foot.
Il y a beaucoup de... La vision aussi de l'argent de poche. Quoi faire de l'argent de poche? Quel cadeau offrir aux parents? Quel budget est-ce que l'on met? Combien de mois d'argent de poche on met dans un cadeau?
Les copines qui en ont plus.
Non, bah voilà, des copines qui en ont, mais c'est illégal.
Elle a 500 euros d'argent de poche.
Non, c'est n'importe quoi.
Elle a une copine qui a 500 euros d'argent de poche.
Par an.
Et alors, elle galère. Elle ne sait pas quoi, elle n'a pas assez.
Par an? Par an?
Non, par mois.
Par moi.
Non, mais c'est n'importe quoi.
Elle touche plus que moi.
C'est n'importe quoi. Mais enfin, c'est extrêmement drôle. Ce qui est bien, c'est ça, la manière dont elle reste extrêmement flegmatique par rapport aux situations les plus dramatiques ou les plus vulgaires. Comme
mais avec de l'empathie aussi.
Exactement.
À certains moments, elle pleure.
Beaucoup. Et s'il y a des sujets qu'elle aborde et que vous ne voyez pas comment traiter, comment dessiner?
Souvent, elle pense que certaines histoires vont me fasciner et c'est assez relou. Et donc, par exemple, elle me dit « Ah, j'ai une super histoire. En fait, alors, y a Thomas, il m'a dit qu'en fait, Stéphanie, elle avait mal parlé sur lui. Alors moi, je dis « Mais comment ça, elle a mal parlé sur toi ?»« Je sais pas. » Alors en fait, après, il m'a dit « Et elle parle comme ça pendant 10 minutes. » Et au bout d'un moment, je lui dis « Elle va attendre que je fasse une histoire de cette histoire, c'est pas du tout intéressant. » Donc c'est plutôt ce genre-là.
Et comment lui dire? Comment
lui dire?
C'est pas intéressant.
Je me dis qu'elle va oublier, mais c'est vrai que souvent elle me raconte les histoires qu'elle pense être intéressantes contiennent parfois quelque chose que je vais pouvoir exploiter, mais c'est souvent des histoires sentimentales de Santa Barbara, ce genre de truc, c'est difficile à faire.
Le roman
ce qui est génial
aussi,
c'est son frère et son acné.
Antoine,
et puis ceux qui veulent jouer les durs, les Kaira, là ils ont des tronches, c'est formidable avant et après, ça c'est très très drôle aussi.
Alors l'idée, Riyad Satouf, c'est que là Esther a 12 ans, jusqu'où on la suit? À quel moment votre intérêt pour Esther, non pas pour l'individu, mais pour le personnage et pour ce qu'il peut apporter,
apporter de frais.
Oui, va se tarir ou pas.
Voilà. Disons que moi, je m'étais mis des contraintes quand j'ai commencé ce projet, que ce soit des contraintes de couleur ou de forme d'album. Et une des contraintes, c'était qu'il y ait un album par an jusqu'à ses 18 ans. Et j'aimerais bien qu'elle grandisse au fur et à mesure des albums. Alors, peut-être que quand elle fera sa crise d'adolescence, elle va... Il va me dire, j'en ai ras-le-bol.
Sauf que maintenant, ce sont des adolescents, c'est-à-dire que l'adolescence finira à 25 ou 26 ans, il va falloir faire plus d'albums.
Il y a déjà des garçons qui se retournent.
Avez-vous besoin d'être dans un contexte précis, c'est-à-dire vous vous asseyez toujours au même endroit, dans la même pièce, vous prenez un verre...
Vous avez un rituel?
Ouais. Ah oui, non, bien sûr, j'ai toujours au même... à la même heure, le même place, même bureau, même tous les jours pareil.
Et vous l'enregistrez ou vous notez au fur et à mesure?
Ah, vous voulez pas. En fait, je le non, on se parle directement comme ça. Enfin, par téléphone.
Ah oui, vous parlez de votre
dessin. Oui, moi je parle de mon dessin. Mais elle, non, on n'a pas de rituel. Je lui envoie des SMS ou elle m'envoie des photos ou elle m'envoie des mails aussi depuis qu'elle a Internet.
Ce qui est touchant, c'est l'amour aussi qu'elle a pour ses parents.
Ah oui, elle adore ses parents, bien sûr. Ça change.
C'est fort. Riyad Satouf, les cahiers d'Esther, c'est chez Alary Éditions. Des excuses à présenter, Daniel Morin, ou vous voulez en rester là?
Non, je peux en présenter, c'est comme vous voulez. Désolé déjà pour tous les défenseurs des enfants qui ont été choqués par la comparaison faite de l'immonde Riyad Satouf contre Esther et un pingouin débile. Il est comme ça, c'est un salaud, c'est un exploiteur. Désolé maintenant pour tous les défenseurs des pingouins qui ont été choqués par l'imitation méprisante. De leur animal chéri, fait par l'odieux Riyad Satouf. Et comme ça, c'est un salaud. Désolé pour tous les défenseurs du feu, Albert Algou, qui ont été choqués par l'attaque gratuite du tyrannique égyptien contre le physique nécrosé et la voix de Jeanne Moreau de notre Albert ce matin. En même temps,
c'est un peu ça, c'est vrai.
C'est vrai que tu pues la mort. Désolé pour tous les défenseurs de Nagui qui ont été choqués par l'humiliation qu'il a subie à cause du psy Stéphane Clergé.
Ah, il m'a clashé, Stéphane.
En même temps, comme me le disait tout à l'heure à la pause Leïla et Allison, putain, c'est bon de te voir à terre, salopard.
Merci Riyad Satouf.
Merci beaucoup.
Merci, bravo, milliards de fois. Riyad Satouf, les cahiers d'Esther, l'histoire de mes 12 ans chez Alary Éditions. Et je rappelle, vous participez aussi au projet d'Albert Algou, Les Cœurs Simples, chez Casterman. Demain, nous parlerons du court-métrage et des courts-métrages avec Marie Gillin, qui est notre invitée.